Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama. Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue. L'équipe de Cinérama est présente au Festival de Cannes, la 77e édition, avec 22 films en compétition. Alors nous sommes sur la croisette, alors que bien sûr les préparatifs un peu hein, pour accueillir l'équipe du film de Christophe Honoré, Marcelo Millo. Ils vont bien monter les marches. Nous, on va pas du tout le faire, Sophia.
Non, pas cette fois, malheureusement. On n'a pas mis les talons ni le nœud papillon.
Mais par contre, on a vu eh bien un certain nombre de films de la compétition. Alors évidemment, nous sommes à mi-compétition, on enregistre cette émission le mardi, donc tous les films n'ont pas été projetés, mais on en a vu un certain nombre. Nous allons donc parler des films que nous avons vus et de ce qu'on peut en attendre finalement, mais aussi en toute fin d'émission, eh bien, ceux qui sont restés dans les studios, nous parlerons du film Foudre et la vengeance du dragon noir qui sont aussi dans les salles depuis le 22 mai. Mais nous parlons avant tout de la 77e édition du Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
C'est irrésistible, en effet.
Alors, le Festival de Cannes a commencé avec une grosse déception. C'était alors celle qu'on a pressentie dans la presse du film de Francis Ford Coppola, Mégalopolis. C'était en début de festival. C'était toi, Sophia, qui étais présente et tu l'as vu, ce film.
Oui, j'ai eu la chance de voir le film de Coppola, un film à gros budget, autofinancé, plus de 120 millions de dollars pour sa réalisation. Il était très attendu hein, ici à Cannes et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a vraiment pas fait l'unanimité. Coppola nous emmenait dans un univers rétro-futuriste pour y développer une fable politique avec ruines romaines et projections d'avenir utopique qui se côtoient dans une capitale états-unienne sur le déclin. Le film est dense, très dense, avec beaucoup d'effets. Alors pour ma part, il m'a clairement fait penser au Roméo et Juliette de Baz Luhrmann et pour cette raison, j'ai apprécié les références à l'Empire romain sur le déclin, avec des couleurs super saturées, une dichotomie presque shakespearienne entre deux clans qui s'affrontent sur leur vision du bien et sur leur vision de l'avenir de la ville et les héritiers de ces deux clans adverses qui tombent amoureux. Bon, au-delà de ça, la romance entre les deux personnages n'est pas très crédible. On ne s'ennuie pas durant le film. C'est peut-être le seul point positif que j'ai à relever, mais il est plutôt long, plutôt dense. Et je crois que pour de nombreuses personnes, ça restera effectivement une déception.
Et par contre, il y avait quelque chose de très spécial qui a été fait lors de la projection.
Effectivement, il s'est passé un petit happening dans la salle. Une personne est montée sur scène et a interagi avec l'écran. Alors effectivement, cela rappelle un petit peu l'importance de visionner des films de ce type-là en salle de cinéma. Il est à se demander si ça pourra se reproduire à nouveau dans les salles de cinéma dans toute la France. Il est peu probable que ce soit le cas.
Oui, parce que ça supposerait effectivement de mettre des interdits dans toutes les salles où ce film sera projeté, Mégalopolis, donc de Francis Ford Coppola. Alors si, à entendre bien la majorité des festivaliers, Mégalopolis a très peu de chances d'obtenir et la Palme d'Or ni aucun prix. En revanche, eh bien, tout le monde a parlé de Emilia Pérez, de Jacques Audiard. C'est vraiment le film dont tout le monde parle. Jacques Audiard s'est emparé d'un scénario très attirant pour offrir une comédie musicale, alors vraiment sans défaut. On côtoie les cartels mexicains avec une jeune avocate, Zoé Saldana, qui doit trouver pour Manitas, un redouté chef de cartel, eh bien, le meilleur des chirurgiens esthétiques. Alors pourquoi ? Eh bien, car celui-ci veut devenir une femme. En changeant de genre, il va aussi casser le déterminisme social. Non sans drame, hein, le film est nerveux, rythmé, sensible. C'est vraiment une vraie pépite pour un scénario en or. Moi, j'étais très surpris parce que j'avais rien lu. Alors, autant j'entendais tout le monde dire que c'était merveilleux, mais j'avais absolument rien lu sur ce film. J'ai même découvert que c'était une comédie musicale. C'est pour vous dire à quel point j'étais dans un blackout total. Et j'ai trouvé ça, mais vraiment très, très fort et très bien mis en scène. Et même ceux qui n'apprécient pas forcément Jacques Audiard, eh bien, ont reconnu que c'était tout de même bien emballé. Voilà, je pense que ça va obtenir un prix. Peut-être mise en scène, peut-être Palme d'Or, peut-être prix du jury, enfin, voilà, je me lance un peu. Alors, Audiard est un habitué du festival, mais Coralie Farja bien, n'en est pas. C'était la première fois qu'elle était présente au festival pour The Substance, un film alors, de body horror qui a pu surprendre les festivaliers. Alors, c'est vrai que dans la salle, c'était très amusant, on l'a vu ensemble, hein, Sophia. Il y avait des réactions, enfin voilà, outrées, des réactions horrifiées parce que la majorité des personnes n'ont pas l'habitude de voir de tels films.
Effectivement, la cinéaste propose avec The Substance un film de genre, un body horror féministe surprenant, porté par le duo très convaincant Demi Moore et Margaret Qualley. On peut se demander en fait si la réalisatrice française n'est pas en fait l'enfant caché de Cronenberg, lui-même également en compétition officielle pour un film qu'on a vu dont on parlera plus tard, ou éventuellement la jumelle de Julia Ducournau. Le film s'intéresse au concept d'âgisme, hein, à savoir la manière dont la société envisage l'âge et notamment la prise d'âge, hein, chez les femmes qui sont plus clairement discriminées selon ce critère, hein, notamment dans les milieux du cinéma, de la mode ou de l'image, hein, plus largement, puisqu'on leur impose plus facilement une date de péremption. Ceci est très bien illustré dans le film, hein, notamment à travers le traitement que réserve le personnage du producteur au personnage de star sur le déclin incarné par Demi Moore, Lizzie Sparkle, qui ne sparkle plus beaucoup, puisque aux yeux des autres, son sentiment n'est en effet plus aussi éblouissant qu'en temps. Et voilà, la star jadis acclamée tombe peu à peu en désuétude, et alors qu'elle se fait évincer de son émission, elle va faire recours à une substance qu'elle obtient via un réseau souterrain pour tenter donc de se réactualiser et accéder à une forme de jeunesse éternelle. Alors, le résultat de cette altération génétique ne va pas lui offrir l'effet désiré très longtemps, et le film va très vite évoluer vers un gore débridé, tantôt drôle et jubilatoire, tantôt exacerbé à l'extrême, mais dans une liberté en fait tellement transgressive qu'elle en est cathartique. C'est ce qu'annonçait Thierry Frémaux, hein, le délégué général du Festival de Cannes, en avril dernier. Il s'agit bien là de gore assumé, je le cite. Il invitait donc les spectateurs à venir avec des protections, hein, tant l'apothéose finale est sanguinolente et semble nous gicler en transperçant l'écran. Un film donc qui est très surprenant, comme tu l'as dit, de retrouver en compétition officielle à Cannes, où il a effectivement dans la salle suscité beaucoup de rires, beaucoup d'applaudissements et de clameurs. Ses nombreuses références classiques et au cinéma gore plus niche ne manqueront pas de séduire les amateurs du film de genre, qui ne pourront plus prétendre que Cannes ne fait pas la part belle au sang.
Alors moi j'ajouterais que formellement j'ai trouvé que le montage et les gros plans à répétition nous conditionnaient à voir la suite avec l'hémoglobine qui arrive. Enfin, pour moi c'était un peu trop, c'était quasiment pornographique. J'ai jamais vu autant de paires de fesses sur un écran de cinéma. Ça c'était assez troublant, enfin une expérience de spectateur pas forcément très très réjouissante. Mais voilà, en tout cas ça a le mérite effectivement d'être là et d'intéresser de substance de Coralie Farja qui n'aura alors peut-être aucun prix, mais qui aura au moins le mérite d'étonner. Alors lui, c'est un habitué du Festival de Cannes. Hein. Il a été le prix du scénario pour trois films, Canine de Lobster et Mise à mort du cerf sacré. C'est Yorgos Lanthimos qui présentait Kings of Kindness. Et tu l'as vu, Sophia?
Et oui, je l'ai vu et j'étais très impatiente de le voir, puisqu'il y a quelques mois, je vous parlais sur les ondes de Cinérama de son dernier film, hein, Pauvre créature, pour lequel le cinéaste avait d'ailleurs remporté le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Et bien, quelques mois seulement après cette consécration, voilà le nouveau long métrage du réalisateur grec Kinds of Kindness, en lice pour la Palme d'Or à Cannes. Le cinéaste reprend d'ailleurs une partie du casting 3 étoiles qu'il avait mis en scène dans Pauvre créature. On a Emma Stone, Willem Dafoe, Margaret Qualley qui se donnent la réplique à nouveau, accompagnée cette fois de Jesse Plemons notamment, qui est remarquable. Le film à sketch dure presque 3 heures, il se développe en 3 parties distinctes et ouvre sur un générique particulièrement sobre mais rythmé du tonitruant morceau Sweet Dreams par Eurythmics. Chaque partie nous emmène dans une nouvelle histoire, mais avec les mêmes acteurs qui incarnent tous donc des personnages différents dans une configuration nouvelle. La thématique principale, fil conducteur des trois petits films qui composent l'œuvre, n'est autre que l'emprise. Elle est développée de bout en bout et se tisse comme une réflexion conceptuelle posée par le réalisateur qui vient napper chacune de ces histoires du cynisme qu'on lui connaît. Dans cette fable donc en triptyque, à contre-pied complet de son précédent film, tout gravite autour des rapports de domination-soumission, de l'aliénation à différentes entités, que ce soit le couple, le travail ou la religion, et où les différents protagonistes sont assujettis à l'autorité et à l'affection, hein, de sortes de psychopathes tout-puissants. Surfant toujours sur des ressorts absurdes et comiques, Tout en se jouant beaucoup de ses personnages, quitte à être cruel à leur égard, Lanthimos nous donne à voir de sa lunette ses personnages pantins s'enfoncer dans le tragique de leur misérable destin. Un film pas facile à aimer, mais particulièrement remarquable pour autant.
Eh bien, si nous écoutions justement Eurythmics avant de reparler des films qui ont pu nous marquer lors de cette 77e édition du Festival de Cannes, on rappelle qu'on est présent, là, on est donc sur la croisette, alors que l'équipe du film de Christophe Honoré se prépare à monter les marches. Voilà, c'était un petit extrait de la bande originale du film de Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos en compétition pour cette 77e édition du Festival de Cannes, où nous sommes présents avec Sofia pour Cinérama. On a vu beaucoup de films, on essaie de vous parler de ceux qui ont pu nous marquer ou de ceux qui étaient attendus, et c'est le cas de Les Linceuls de David Cronenberg. Alors c'est l'histoire d'un homme qui n'arrive pas à faire le deuil de sa femme et qui met au point des tombes connectées qui permettent, avec un linceul spécifique, de suivre en temps réel la décomposition du corps du défunt. Voilà, bon, déjà ça s'est posé, et une fois exposé, eh bien, la douleur et le remède, on est plongé dans un thriller vaguement complotiste, après qu'un de ces cimetières connectés, eh bien, soit profané, mais pas comme des sagouins, hein, de manière très méthodique, ce qui laisse supposer bien qu'il y a un plan derrière. Alors on suit de nombreuses pistes, dont certaines sont perdues en cours de route. Il reste que ces événements vont permettre au protagoniste, le concepteur, interprété par Vincent Cassel, qui ressemble vaguement à David Cronenberg, qui a perdu sa femme en 2017, je crois. Eh bien, voilà, il y a cette identification donc qui permet à ce concepteur de dépasser son deuil. Il y a des dialogues savoureux, un humour glacial, une ironie toujours présente finalement dans les films de Cronenberg. Mais c'est vrai que c'est un film qui pourrait paraître confus.
Oui, effectivement, confus. Je pense que l'objectif, c'était pas de nous garder à bord de cette enquête pour retrouver les profanateurs du cimetière, mais plutôt de nous perdre. En cela, le film réussit très bien son pari initial. Confus et pas très convaincant pour ma part.
À noter que pour ce film, il y a eu des applaudissements quand est apparu David Cronenberg à l'écran, mais un peu moins à la fin, oui. Parlons d'un film en revanche qui a été très applaudi, c'est The Apprentice de Ali Abbasi. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est le film sur l'ascension de Donald Trump. Le film s'intéresse au début de l'ex-président américain dans le domaine des affaires au début des années 70. Le titre reprend le nom de l'émission qui a popularisé Trump, dans laquelle, eh bien, des candidats se disputaient des postes de cadre, une émission de télé-réalité. Alors il y a des choses à apprendre, hein. La première, c'est qu'on ne se fait pas tout seul, mais bon, ça c'est pas nouveau. Il a été pris sous son aile par un avocat qui avait été le conseiller du sénateur McCarthy et qui a fini par avoir des dossiers sur tout le monde. Alors on voit l'obsession de Trump pour le fric, pour son image, son manque d'empathie, alors là, assumé, et même de loyauté. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit comment des fortunes se bâtissent, donc avec bien des pots de vin, avec des dossiers qu'on a sous la main et des pressions. Le montage est nerveux, les images semblent nous arriver des années 70. C'est vraiment une très bonne réussite, et la presse s'est un peu emballée en pensant bien que ça relançait le festival que certains trouvaient un peu atonique. The Apprentice de Ali Abbasi, c'est un film très attendu, d'autant qu'il va parler à de nombreux spectateurs, puisque Donald Trump est forcément connu de tout le monde, qu'on en a une image, et que là on va en avoir une autre, et surtout celle qu'on connaît peut-être la moins. Film qui n'a pas les mêmes chances sans doute de se retrouver lauréat, c'est Diamant Brut d'Agathe Riedinger. C'est son premier film et c'est une Française.
Oui, c'est une première réalisation pour Agathe Riedinger, qui semble de manière assez évidente s'inscrire dans la lignée de la filmographie d'Andrea Arnold, qui elle aussi est en compétition pour un autre film, Bird, plutôt très bien reçu ici sur la croisette, hein. Alors on identifie notamment une parenté assez claire à Fish Tank, qui a été prix du jury au Festival de Cannes en 2019. Donc les ingrédients sont plutôt bien réunis pour pouvoir espérer obtenir un prix. Certainement pas la Palme d'Or, pas à mon avis, mais peut-être une caméra d'or pour une première réalisation plutôt réussie. Contrairement à la britannique Katie Jarvis qui avait le rôle principal dans Fish Tank, ici on suit les aventures de Lila, incarnée par Malou Kebizi, qui débute elle aussi en véritable diamant brut dans ce premier film. Il se déroule en France et dans le sud notamment, certaines scènes, dans les rues de Cannes même, qui accueillait toute l'équipe ces derniers jours. Le film d'Agathe Redinger s'illustre comme un coming of age puissant, inscrit dans la marge, où les réseaux sociaux servent de tremplin d'accès à la télé-réalité, qui elle-même s'illustre comme projet de carrière, autant que palliatif aux carences affectives et blessures d'abandon et d'injustice qui balafrent le personnage de Lila. Donc on retrouve dans ce film une réflexion très riche sur la sexualisation du corps des femmes à l'ère des Kardashians, de la toute-puissance et des effets des réseaux et de l'influencing. Et j'y ai vraiment compris les transformations que Lila imposait à son corps, opérations des seins, des fesses, maquillage très outrancier, port de chaussures à talons très hauts qui lui cisaillent les pieds. Ça flirte presque avec le body horror par moment. Presque. Tout ceci, on le perçoit vraiment comme autant de procédures qui n'ont en fait qu'un seul but, hein, permettre à Lila d'être aimée, le corps sexualisé et aimé, et Lila, ce dont elle a besoin, c'est d'être aimée. Un très joli film, en tout cas, qui pourrait prétendre à la Caméra d'Or.
Caméra d'Or, on le précise, hein, c'est le premier film de la compétition, et, enfin de toutes les compétitions, présente au Festival de Cannes, où nous sommes présents avec Sophia, donc on est sur la croisette, et on va bien terminer avec Limonov, la Balade, adaptation du roman d'Emmanuel Carrère de Kirill Serebrennikov. Ce biopic orienté sur Édouard Limonov s'étale sur plusieurs décennies avec ses difficultés de transmettre ce qu'a pu être l'écrivain qui fut aussi SDF, mercenaire, révolutionnaire, dissident, majordome. Il y a plusieurs vies et plusieurs zones d'ombre que le film n'éclaire pas forcément. Il me semble que le réalisateur russe a voulu montrer l'impossibilité de circonscrire Limonov comme s'il s'agissait d'une énigme qui change d'état à mesure que le monde évolue. La mise en scène est remarquable, mais vraiment, il y a plein de trouvailles pour caractériser une époque ou un changement d'état et beaucoup d'éclat. Je mets vraiment un billet sur Ben Winshaw pour un prix d'interprétation et je pense que Limonov aura aussi un autre prix. Je ne sais pas quand il sera dans les salles, mais soyez attentifs parce que de toute façon, ce réalisateur est vraiment brillant. Alors dans ce film, on entend Les Velvet Underground, mais on entend aussi une chanson de Tom Waits que j'adore particulièrement. Il revient souvent. Ça s'appelle Russian Dance. Nous parlions de Limonov, la balade qui est en compétition pour ce 77e festival de Cannes où nous sommes présents avec Sophia. Et toi Sophia, tu voulais quand même terminer par deux, trois films hors compétition que tu as pu apprécier pour ce festival.
Difficile de ne pas mentionner d'autres films qui m'ont particulièrement marqué et qui étaient en sélection officielle, Un certain regard notamment, ou carrément hors compétition. Je pense notamment au film Les femmes au balcon de Noémie Merlan qui était une véritable réussite et une explosion à l'écran. C'est vraiment des films qu'on voit en séance avec un public endiablé et en folie et très exalté par ce qui est donné à voir. Donc ça confère une atmosphère toute particulière lors des visionnages. Donc voilà, Les femmes au balcon de Noémie Merlan à voir absolument. Et je conseillerais également Le procès du chien de Laetitia Doche, tourné à Lausanne, qui s'inspire de l'histoire vraie d'un chien qui aurait été jugé comme un individu et non comme un objet. Après avoir mordu, vraiment particulièrement émouvant et terriblement drôle.
Avant de refermer cette page cannoise, nous allons parler de la palme d'honneur au studio Ghibli. Hayao Miyazaki et Toshio Suzuki ont reçu ce lundi 20 mai une palme d'or donc d'honneur à Cannes pour le studio qu'ils ont cofondé en 1985. Alors ils n'étaient pas présents sur la croisette pour recevoir leur prix, mais ils ont enregistré une vidéo plutôt drôle pour le public qui est en plus a pu voir 4 courts-métrages inédits, dont une mini-suite de Mon voisin Totoro. Et c'est le fils d'Hayao Miyazaki, Goro, qui a reçu le prix à Cannes. Nous n'y étions pas à cette remise de palme d'or, mais nous avons rencontré Kinga qui a pu s'y rendre et puis on lui a demandé pourquoi elle avait choisi d'y aller et puis ce que ça lui a fait.
Le festival a quand même plein de films très sympathiques, très artistiques, mais cette année c'est particulièrement lourd. Et Ghibli, quand ils sont arrivés, c'était un peu comme si on retrouvait nos 5 ans et cette petite Madeleine de Proust, parce qu'on ne les voit pas souvent au Festival de Cannes. Et le fait qu'ils nous permettent de voir 4 courts-métrages qui apparemment ne sont jamais arrivés en Europe, mais qui sont spécialement projetés ici, alors que d'habitude ils sont réservés au musée Ghibli, c'était un honneur. Et c'était tellement frais et voilà, c'était magnifique, très beau court-métrage.
Et ça a été chargé d'émotions parce qu'il y a eu une longue salve d'applaudissements.
Oui, il y a eu à peu près 15 minutes de standing ovation, 15 ou 20 minutes même. Gorō Miyazaki, qui était là avec le directeur du musée et du parc Ghibli, était particulièrement touché, à la limite des larmes. Je pense qu'il y avait 2000 enfants dans la salle. C'était magnifique. Et on a eu le droit aussi, à la fin, à des petits goodies fort sympathiques venus directement du Japon. Voilà, spécialement pour les fans.
Ah ben voilà, on va refermer cette page cannoise. On va laisser l'équipe du film de Christophe Honoré, Marcelo Millo, se préparer à monter les marches. Et puis, nous, on va faire là. Alors, toi, tu vas rentrer, mais moi, je vais rester pour voir la fin de la compétition.
Is Cinerama.
Le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
Si ça ne vous plaît pas, c'est la même chose.
On termine avec 2 films qui sont dans les salles depuis le 22 mai. Nous commençons avec Foudre de Carmen Jacquier. Elisabeth s'apprête à prononcer ses vœux après 5 ans au couvent, mais elle est rappelée auprès de sa famille. Et c'est Guillaume, qui n'est pas à Cannes, qui nous en parle.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre, moi.
J'ai le regret de vous annoncer la mort de votre sœur aînée. Votre famille a besoin de vous pour les travaux de campagne. Nous allons donc vous laisser partir pour l'été. À présent, vous êtes l'aîné de la famille.
Au début du siècle dernier, lors de l'été 1900, nous plongeons au cœur d'une vallée du sud de la Suisse en suivant Elisabeth, 17 ans, qui est sur le point de prononcer ses vœux après 5 ans passés au couvent. Alors la mort soudaine de sa sœur, elle l'oblige à retourner dans la ferme familiale pour assumer son nouveau rôle d'aîné. Elisabeth se retrouve vite asphyxiée par cette vie de labeur et elle est obsédée par les mystères qui entourent la disparition de sa sœur et va donc chercher à s'affranchir de son statut et de ses nouveaux engagements. Résumé minimaliste, on le devine, pour ce voyage profondément intérieur.
Papa, je dois retourner au couvent.
Pourquoi se tourmenter quand elle est sainte d'obéir, Elisabeth ?
Dieu, comme je le pensais, n'existe pas. Dieu est une vibration. Dieu est l'endroit de mon désir.
Après avoir participé au projet collectif Wonderland, la cinéaste genevoise Carmen Jacquier se lance en solitaire et réalise son premier long métrage Foudre en décidant de se recentrer sur une histoire éminemment personnelle. C'est notamment après avoir lu les carnets intimes de son arrière-grand-mère adressés directement à Dieu qu'elle a décidé de se lancer dans le récit initiatique d'une jeune fille de 17 ans qui voit son monde complètement changer et dont le départ de son couvent va se vivre comme un éveil au sens. Alors cette transition ne va pas se faire sans appréhension car elle répond à l'appel de ses parents agriculteurs, des gens plus près de la terre que du ciel et qui doit composer après la mort brutale de sa sœur aînée qu'elle a eu du mal à interpréter et dont elle doit porter en quelque sorte le fardeau sur ses épaules. Alors Foudre frappe dès ses premières images par sa préciosité formelle qui fait penser à plusieurs illustres aînés qui se sont aventurés avant Carmen Jacquier sur le terrain de la confrontation des jeunes corps et de la nature comme porte ouverte vers l'infini et l'éternel. Alors, difficile de ne pas penser bien sûr à Terence Malick, le pape de la déambulation champêtre depuis plus de 40 ans, déambulation mêlée à de l'introspection spirituelle. Alors le fait de faire de son héroïne une fille de Dieu accentue cette comparaison, tant les symboles religieux sont nombreux chez le réalisateur américain et qu'ici l'évolution du personnage sera mise en parallèle avec un certain sacre de la nature. Figure féminine qui est en train de bourgeonner, de devenir une femme, Elisabeth est en totale communion avec la nature, ou du moins fait corps avec la nature, qui va refléter son voyage intérieur à la recherche d'elle-même. Alors j'en veux pourquoi des idées originales et visuellement marquantes comme une séquence dans des orties qui laisse des stigmates aussi répulsifs qu'érotiques aux protagonistes. Alors cet éveil charnel avec une nature comme catalyseur d'une sexualité sous-jacente n'est pas sans évoquer le très beau portrait de femme du chef-d'œuvre de Juan Butuen, le fils d'eux, Luis, au rendez-vous de la mort joyeuse qui voit la nature entourant une maison changée et recouvrir toute trace humaine dans son dernier plan, alors que son héroïne a atteint sa pleine maturité en étant allée jusqu'au bout de sa mutation fantastique. Alors on pense également parfois aux Dreyer de Hordette dans certains choix de cadrage et du silence donné à la nature pour seul dialogue, donnant ainsi à Foudre un côté expressionniste en couleur, le temps de quelques plans sur des tombes enneigées.
Arrête, tu me fais peur. Je dérange. Mon désir se voit. Si je dois choisir entre l'enfer et le torrent, je choisis le torrent.
Ses qualités plastiques indéniables et envoûtantes n'échappent néanmoins pas aux défauts de certains premiers films ayant fait le choix de la contemplation. Dès lors que les enjeux sont clairement posés, le long métrage n'évite pas certains gros pièges du symbolisme à outrance et de la suspension éthérée trop accentuée. L'intrigue tournant autour du désir de sensualité opposé à la religion et au conservatisme étroit d'un village apeuré par des femmes trop libérées et à ses yeux synonymes de pécheresses n'arrive pas à renouveler l'intérêt premier qu'elle éveillait en nous. Mais si vous voulez vous faire votre propre opinion, il faut absolument se la faire sur grand écran, tant l'esthétique saura assurément vous happer, à défaut de passionner sur le long.
Foudre de Carmen Jacquier est en salle depuis le 22 mai. Un homme cherche à venger ses parents, le sabre à la main. Nous parlons de la ressortie de la vengeance du dragon noir.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Effet Cannes oblige, la pénurie de sorties en cette fin de mois de mai, elle mérite au moins de découvrir des classiques qui, sans le courage de certains distributeurs, tomberaient dans les limbes de l'oubli. Alors, si les sorties Blu-ray et DVD permettent régulièrement de découvrir des pépites du cinéma de genre, il est encore plus satisfaisant de les découvrir sur grand écran. La ressortie en 2K de La Vengeance du Dragon Noir en est un exemple frappant. Splendide film de sabre, le Yu Xia Pian, j'espère que je prononce correctement pour être précis, qui s'inscrit dans la lignée des chefs-d'œuvre de King Yu, l'auteur de L'Hirondelle d'or et de Raining in the Mountain. Alors d'ailleurs, le cinéaste Joseph Kyo lui rend un hommage très explicite en intégrant dans son récit le personnage mythique de L'Hirondelle d'or, cette guerrière redoutable déguisée en homme dans le film de King Yu, sorti 2 ans auparavant, en 1966. Après avoir commencé par réaliser des drames et des romances, le Taïwanais Kyo va devenir l'un des spécialistes du genre avec une 60aine de films à son actif, dont la plupart n'ont jamais franchi nos frontières. Alors l'histoire de la vengeance du dragon noir est très simple et même manichéenne si l'on s'en tient à cette thématique centrée sur la vengeance. Tsai Ying-ji assiste à l'âge de 6 ans au massacre de sa famille par 5 seigneurs dans le but de s'emparer de la légende de la légendaire épée chasseur d'âmes. Des années plus tard, devenu un maître dans le maniement de la lame, le jeune homme part à la recherche des assassins de ses parents afin d'accomplir sa vengeance. Au cours de sa quête, il croise le chemin donc de l'hirondelle, ignorant qu'elle a un lien avec un des hommes sur la liste. Énoncé ainsi, le scénario n'offre que très peu de surprises, mais c'est un peu la loi d'un genre qui vaut plus pour sa forme que pour son fond, aux marges de manœuvre étroites. Mais dans le cadre d'un cinéma populaire en vogue, le film fut à sa sortie un succès retentissant, Joseph Kyo dévie le programme attendu pour humaniser son personnage principal et introduire dans le dernier tiers la notion de pardon. Alors ce n'est pas d'une originalité profonde, mais cette dimension de résilience le rapproche davantage d'un auteur comme King Yu que d'un pur mercenaire enchaînant les films d'exploitation. L'acteur principal manque un peu de charisme, trop raide dans son interprétation, réduite à peu d'expression, mais il est entouré d'une galerie de personnages séduisants, à commencer par la fameuse hirondelle et aussi ce maître du combat au visage à moitié camouflé par son chapeau. La vengeance du dragon noir vaut le détour pour l'élégance de sa mise en scène, l'orchestration des scènes de combat filmées comme des tableaux vivants, les chorégraphies magnifiées par un découpage lisible et de splendides travelling sont toujours aussi impressionnants, d'une rigueur n'ayant pas pris une ride. Par la suite, le réalisateur travaillera dès 78 avec le fameux chorégraphe Yan Wuping, connu du grand public pour Tigre et Dragon et Matrix. Alors, fleuron d'un genre exotique pour les Français est essentiel hein, pour les Asiatiques, hein, notamment pour les Chinois et les Hongkongais. Tout comme le western aux États-Unis, La Vengeance du Dragon Noir est un excellent divertissement, racé et prenant, d'une beauté visuelle souvent sidérante, hein, la photo et la reconstitution étant aussi d'une qualité assez unique.
La Vengeance du Dragon Noir ressort en salle depuis le 22 mai.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
Voilà, nous étions en direct de la Croisette au Festival de Cannes, la 77e édition. La compétition va se poursuivre. Dans la prochaine émission, on aura tous les lauréats et on pourra vous en parler parce que je pense qu'on aura vu la quasi-totalité des films. À la semaine prochaine.